Les podcasts du Collège de France, Histoire.
J'ai donc terminé la semaine dernière le récit de la carrière publique de Xu Zhijiao, tel qu'il la rapporte dans son autobiographie, Le Suépu, dont nous sommes maintenant familiers. En un peu plus de 20 ans, de 1610 à 1631, Xu Zhijiao a été magistrat de sous-préfecture dans deux postes différents, puis il a été fonctionnaire dans les bureaux du gouvernement central à Pékin, d'abord au ministère des Travaux publics, dans un poste très modeste, puis au ministère de la guerre, où il s'est trouvé nettement plus proche des centres du pouvoir. Et enfin, un peu plus de 2 ans après avoir été radié des cadres pour s'être permis ce qu'on pourrait appeler une provocation politique à l'égard de l'homme fort du moment, c'est-à-dire de l'eunuque Wei Zhongxian, il a été intendant des affaires maritimes, c'est-à-dire Haidao, au Fujian, placé directement auprès du grand coordonnateur, c'est-à-dire du super gouverneur, si on veut, et généralissime, Xiong Wensan. Donc, dont tout ça, j'en ai parlé la dernière fois. Aussi bien le niveau du poste qu'il occupe au Fujian que les responsabilités effectivement exercées étaient très supérieures à ceux qu'il avait connus jusque-là. Et de toute évidence, ses fonctions au Fujian étaient aussi beaucoup plus prenantes et pourrait-on dire beaucoup plus stressantes que celles qu'il avait assumées dans les bureaux de la capitale. Encore que ses responsabilités au ministère de la guerre étaient loin d'être une sinécure. Pour qu'on les place là, en 1628, donc, quelques mois après l'avènement de l'empereur Chongzhen, il faut croire qu'il... Chongzhen, je l'écris quand même parce que je... au moins pour que... Donc c'est le dernier règne des Ming. Donc quelques mois après l'avènement de Chongzhen, il faut croire que Xu Zhijiao avait acquis une certaine réputation pendant ses années à Pékin. Mais comment exactement il avait acquis cette réputation, ce n'est pas très clair. Déjà en 1625, comme nous l'avions vu, Gao Di, le ministre de la guerre, qui venait d'être désigné comme général en chef sur le théâtre de Mandchourie, avec en fait une juridiction qui s'étendait sur tout le golfe du Bohai, c'est-à-dire non seulement la Mandchourie au nord, mais également la région de Tianjin et le nord du Shandong. Gao Di, en 1625, avait voulu emmener Xu Zhijiao comme conseiller stratégique. Et Xu Zhijiao avait réussi, dans les circonstances que j'ai relatées la semaine dernière, à échapper à un poste où il estimait qu'il n'aurait pas la possibilité d'accomplir quoi que ce soit. Mais la question demeure, pourquoi juste lui, alors qu'il n'avait jamais servi dans ce genre de fonction stratégique et qu'il n'avait aucune expérience militaire de terrain, si je puis dire, en dehors des revues de troupes qu'il était tenu de faire ex fonction, et il en mentionne beaucoup, et de quelques tournées d'inspection des défenses. La seule chose qu'on puisse dire sur la base de l'autobiographie du Suépu, c'est que Xu Zhijiao était déjà extrêmement concerné par les problèmes militaires, et surtout qu'il était très renseigné, bien au-delà, me semble-t-il, de ce qu'impliquaient ses fonctions au ministère de la guerre. Et qu'en outre, il n'avait pas peur de s'exprimer. En tout cas, c'est ce que suggèrent non seulement les nombreuses conversations avec ses collègues, dont il rencontre ou simplement les opinions qu'il consigne dans ce qui était à l'origine son journal, mais aussi un certain nombre de réunions au ministère pour discuter de promotion ou de nomination, donc de personnel militaire, sur le terrain, des postes opérationnels, où il donne volontiers son avis, et à le lire en tout cas, son avis semble avoir eu une certaine autorité. L'une des obsessions de Xu Zhijiao, et il y revient souvent, c'est de trouver des chefs capables d'exercer une autorité fondée sur le respect et la confiance de leurs hommes, capables de les motiver à se battre, et surtout capables d'empêcher les désertions et ce qu'on pourrait appeler le coulage, c'est-à-dire cette pratique extrêmement répandue en vertu de laquelle les officiers déclaraient des effectifs supérieurs à ceux dont ils disposaient réellement et empochaient les soldes des absents. Enfin, il est visible que Xu Zhijiao avait une connaissance approfondie de tous les enjeux logistiques, des effectifs, des budgets et en général de tous les dossiers techniques qu'il possédait, si vous voulez, une sorte d'érudition bureaucratique qui en aurait certainement fait un conseiller utile. Et cette érudition, il l'avait d'ailleurs déployée dans un grand traité intitulé le ou bien Tianze, ce qui signifie les règlements, Tianze, c'est oui, les règlements, les lois, les édits, etc., des cinq régions frontières. Qui est un traité très massif en 24 chapitres, une compilation de documents qui couvre la période depuis le début des Ming jusque vers 1570, et dont les préfaces de l'édition publiée datent visiblement du début du règne Chongzhen, donc l'époque où Xu Zhetuo était au Fujian, mais dont le texte est probablement antérieur. Les cinq régions frontières en question sont le nord-est, donc la région du Shaanxi, Gansu, la zone de Xuanhua, Datong, c'est le nord du Shaanxi, disons au nord, nord-nord-ouest de Pékin, le Shaanxi, ensuite au nord-ouest, et les régions du sud-ouest. Et enfin, la côte sud-est, parce qu'il y a un chapitre sur ces pirates japonais, ce qui est une sorte d'appellation générique de la piraterie à laquelle j'ai déjà fait allusion. J'avais mentionné, je crois, cet ouvrage au passage, il y a une ou deux semaines, qui avait été censuré sous les Qing et dont il ne subsiste que quelques exemplaires originaux dans certaines bibliothèques d'Extrême-Orient, mais qui existent aujourd'hui en reprint, enfin, c'est facile d'accès. Et j'ai d'ailleurs découvert par hasard, pas plus tard que hier ou avant-hier, qu'un exemplaire vient d'en être vendu aux enchères par Internet en Chine pour la somme modique de 168 000 yuan, soit à peu près 18 000 euros. Donc, si, comme vous voyez, je vous parle de choses qui ont vraiment du poids. L'intérêt que manifestait Xu Zhetuo pour les problèmes militaires est également souligné par son disciple et préfacier, qui définit de la manière suivante, et c'est assez bien dit, les priorités intellectuelles de son maître, en distinguant à chaque étape la chaîne et la trame, c'est-à-dire le Qing et le Wei. Autrement dit, plus ou moins l'essentiel et l'accessoire, ou le secondaire. Ce sont de vieux termes de textile, en fait, et qui ont toutes sortes d'applications en chinois. Donc, il dit, je cite, « D'une manière générale, dans ce qu'étudiait monsieur, enfin, monsieur, mon maître, donc, les chroniques véridiques, les chelous, hein, dont j'ai déjà parlé, de la dynastie régnante formaient la chaîne et les 21 histoires dynastiques formaient la trame. Concernant les affaires de la dynastie régnante, enfin des Ming, les deux fondateurs et leurs 12 successeurs, c'est-à-dire les empereurs Ming, c'est-à-dire les décisions en fait des empereurs Ming, formaient la chaîne et les ministres et hommes d'État fameux, autrement dit les mémoires et les propositions des hauts fonctionnaires, formaient la trame. Dans les préoccupations des souverains et des ministres, les affaires militaires formaient la chaîne, et tout ce qui concernait les défrichements, l'administration du sel, le commerce du thé et des chevaux, etc., constituait la trame. Autrement dit, d'abord l'histoire contemporaine, donc la dynastie régnante, d'abord le cœur du pouvoir, c'est-à-dire les souverains, les décisions qui se prennent au palais, et d'abord les questions de finances et de stratégie, à commencer par les affaires proprement militaires, qui en fait était directement concerné par la défense était directement concernée par ce qu'il cite ensuite, c'est-à-dire l'administration du sel, puisqu'il y avait un système compliqué par lequel les marchands qui avaient le monopole, qui disposaient du monopole du sel, devaient en échange approvisionner les frontières, enfin les armées des frontières, et de même le commerce du thé et des chevaux. Qui n'est pas un couple folklorique, c'est qu'il y avait vraiment à la frontière nord un échange entre le thé qui était exporté vers l'Asie intérieure et les chevaux qui étaient achetés en Asie intérieure et qui servaient aux armées des Ming. Pour y revenir, il faut croire que pendant son séjour au ministère de la guerre, Xu Zhetuo avait acquis une réputation de compétence et d'engagement qui le distinguait de la masse de ses collègues et que c'est donc pour cela qu'il a été remarqué par Gao Di, lequel était ministre de la guerre depuis quelques mois à ce moment-là. Ce qui est surprenant, en revanche, et qui explique probablement l'extrême réticence, pour dire le moins, de Xu Zhetuo à cette offre d'être conseiller stratégique de Gao Di, c'est que ces options stratégiques et celles de Gaudi semblent avoir été opposées. C'est en tout cas ce que suggère l'attitude même de Gaudi pendant les quelques mois qu'il a passé ensuite comme général en chef sur le théâtre du Nord-Est, avant d'être censuré et destitué pour couardise. Sa stratégie, en effet, était d'abandonner le Liaodong, c'est-à-dire la Mandchourie en gros, à l'ennemi, donc au Mandchou, et de se replier à l'intérieur des passes, donc à l'intérieur de Shanhaiguan et des passes au nord, pour mieux défendre le cœur de l'Empire. Or, cette stratégie purement défensive, que Gaudi n'était d'ailleurs pas le premier à proposer, Xu Zhetiao affirme à plusieurs reprises pendant la période précédente qu'il y est totalement hostile. Quoi qu'il en soit, il n'aura pas eu l'occasion de démontrer ses talents de conseiller stratégique dans cette occasion, puisqu'il a été, comme nous l'avons vu, limogé une dizaine de jours après sa désignation, laquelle désignation comme conseiller était d'ailleurs accompagnée d'une belle promotion au rang de Langzhong, c'est-à-dire, peu importe le mot, c'est-à-dire chef de département, en fait, alors qu'avant, il n'était qu'un secrétaire dans son département au ministère. Et pourtant, après 2 années d'éloignement, donc 2 années pendant lesquelles Xu Zhetiao est en fait devenu une non-personne du point de vue de l'appareil d'État, après ces 2 années, on va de nouveau le chercher. Et tel qu'il le présente, l'ordre venu du gouvernement parlait d'un certain Xu qui a une connaissance étendue des affaires militaires. Cet édit ordonnait donc au ministère de la fonction publique de proposer Xu Zhetiao rapidement pour une nomination. Donc il faut croire, là encore, que parmi les gens redevenus influents à Pékin, après l'avènement du nouvel empereur et la chute de Wei Zhongxian, il y en avait qui se souvenaient de Xu Zhetiao et qui considéraient qu'il était urgent de redonner du service à quelqu'un d'aussi compétent. Tout cela, donc, et tout ce que j'ai évoqué de la carrière de Xu Zhetiao ces dernières semaines, campe un fonctionnaire extrêmement engagé dans sa profession, très compétent et, en outre, travaillant sans cesse à élargir ses connaissances, et enfin, un homme d'action capable de prendre des décisions et de les imposer, et qui n'a pas peur de l'inconfort et des dangers du terrain. Et c'est ce que montrent en particulier ces 2 années passées au Fujian, ou deux, un peu plus que deux, entre 2 et 3, dont j'avais parlé la semaine dernière, pendant lesquelles il n'a pas cessé d'arpenter la côte dans des conditions très inconfortables pour renforcer les défenses et pour essayer de contenir le fléau de la piraterie. Cette dimension professionnelle du personnage, donc le lettré intéressé en priorité par l'histoire et par les sujets utiles au gouvernement, avec une prédilection pour la défense, le fonctionnaire engagé et efficace, etc., cette dimension professionnelle, on peut être sûr que c'est elle et elle seule qui aurait figuré dans une biographie conventionnelle de Xu Zhetiao, une biographie officielle, par exemple, s'il en avait existé. Cette dimension est d'ailleurs purement professionnelle et le seul aspect qu'évoque l'auteur de la biographie placée en tête du Xu époux, laquelle biographie, comme je l'avais dit, n'a rien d'officiel et tire l'essentiel de sa substance de l'autobiographie proprement dite, autrement dit du texte de Xu Zhetiao lui-même. Or, ce qui fait du Xu époux, encore une fois, un document autobiographique tout à fait exceptionnel, c'est justement la façon dont Xu Zhetiao entremêle les données sur sa carrière et sur ses activités en tant que fonctionnaire et celles qui concernent sa vie privée et sa vie sociale. À quoi s'ajoute, et c'est peut-être cela le plus important, en tout cas ce qu'il distingue le plus, à quoi s'ajoutent ses pensées et ses réflexions, même les plus intimes, par quoi j'entends des choses pas nécessairement inavouables, mais simplement des choses qu'un lettré chinois ne met normalement pas sur le papier. Comme je l'avais aussi rappelé, la forme même de l'autobiographie chronologique, qui dans le cas du Xu époux consiste visiblement en un montage d'entrées extraites d'un journal tenu au jour le jour, cette forme même se prête particulièrement bien à une telle imbrication du public, si je puis dire, du public et de l'intime. Mais ce qu'il y a de spécial dans le cas de Xu Zhetiao, outre la place considérable qu'occupe sa vie personnelle et même sa vie intérieure dans son autobiographie, et pas seulement pendant les périodes où il est tenu éloigné de la vie administrative, ce qu'il y a de spécial, c'est la façon dont l'intime et le réflexif s'articulent directement aux éléments concernant sa carrière professionnelle, au lieu de leur être simplement juxtaposés. Ce sont donc ces aspects non publics ou extra-publics de la vie et de la personnalité de Xu Zhetiao dont je voudrais dire un mot aujourd'hui pour conclure sur le Xu époux. J'avais parlé un moment de distanciation pour caractériser l'attitude de Sujetio par rapport à sa propre carrière. Encore faut-il s'entendre sur ce que je veux dire exactement par ce mot. Contrairement à beaucoup de lettrés de la fin des Ming, Sujetio n'affecte jamais la pose de celui qui participe au pouvoir à son corps défendant et qui considère l'exercice des fonctions publiques comme une activité vulgaire dans laquelle on ne peut que se compromettre. Il s'en fait au contraire de cette activité la plus haute idée. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cela ne l'empêche pas de se poser des questions. D'abord, de se poser des questions sur les conditions dans lesquelles on est parfois obligé de remplir de telles fonctions, les conditions techniques, mais aussi les conditions et surtout les conditions politiques. Et ensuite, et surtout, il arrive plus d'une fois à Sujetio de s'interroger sur son propre désir de continuer dans des conditions qu'il juge frustrantes ou simplement par lassitude et parce qu'il aspire en quelque sorte à se retrouver. Dans son cas, la retraite loin des affaires du monde n'est pas cet idéal un peu snob du lettré qui prétend vouloir protéger son intégrité. Et j'en avais dit un mot, il y a 8 ou 15 jours, lorsque j'avais parlé ou évoqué la figure de l'ermite dans la mythologie administrative ou confucéenne. Il s'agit plutôt, chez Sujetio, d'une sorte de tentation récurrente et d'une tentation qui vient en conflit avec son sens du devoir et avec son désir de faire honneur à son nom, c'est-à-dire à sa famille, ce qui, pour lui, comme pour la plupart des gens, comme pour la plupart de ses contemporains, passe nécessairement par une carrière publique réussie. Je l'ai dit, on rencontre dans le Xuepu plus d'un exemple de ces interrogations ou de ces hésitations. C'est parfois très fugace. En 1613, par exemple, alors qu'il avait été mis, nous avions vu comment il avait été mis provisoirement en charge des sceaux de la sous-préfecture de Tianxia, c'était un au Roubaix, c'était un simple intérim. Il avait pris des initiatives tellement populaires que les habitants de Tianxia, toute classe confondue, le peuple et les lettrés, comme on dit, avaient fait pression sur les autorités provinciales pour que celles-ci demandent sa titularisation dans ce poste. Mais le ministère ne répondait pas. Probablement parce que Sujetio, qui avait été sanctionné après sa magistrature à Shanghai, n'avait pas un assez bon dossier pour pouvoir être nommé à une sous-préfecture aussi importante. Donc rien ne vient et Su affirme qu'il aime autant cela. Et je cite, à chaque sélection, donc il y avait une sélection au ministère tous les deux mois pour remplir les postes vacants, à chaque sélection, je tendais le cou en regardant vers le nord, d'où viendrait le messager, enfin la nouvelle, et en disant si seulement je pouvais être libéré de cette charge. Et c'est qu'à cette époque, il est encore sous le coup de ses malheurs à Shanghai, justement, et ses sentiments par rapport à la carrière sont extrêmement mitigés. Et nous avions vu qu'au début de son séjour à Tianxia, il passait son temps à se tourner les pouces, et qu'il avait tout fait pour ne pas être chargé, justement, de l'intérim à Tianxia, mais en vain. Trois sélections se passent donc tous les deux mois, sans qu'aucun messager n'arrive du Nord, mais à la quatrième, Sujetio est effectivement nommé, titularisé donc dans le poste de Tianxia, et maintenant qu'il est dans la place, pour de bon, il marque le coup en faisant venir sa famille à Tianxia. La conclusion brutale de sa première magistrature à Shanghai, c'est-à-dire la façon tout à fait injuste, en tout cas c'est ce qu'il affirme, et il le fait sans la moindre emphase, tout à fait injuste dont il avait été censuré, par un haut responsable du tribut en grain qui était décidé à avoir sa peau, malgré le soutien de ses supérieurs, et dont il avait été, et la façon donc dont il avait été renvoyé de son poste, cette conclusion peu glorieuse semble en fait lui avoir beaucoup pesé par la suite. Et il en parle assez souvent. Autant qu'on puisse en juger, le problème c'était à la base que Sujetio ne se pardonnait pas de s'être allé laisser aller par négligence ou par naïveté ou par stupidité, comme il dit souvent, et en fait par simple inexpérience, de s'être laissé aller à une attitude désinvolte qui ne pouvait que mettre en rage le responsable en question. Et que la conséquence avait été, si l'on peut dire, un accident professionnel qui restait d'abord dans son dossier, bien sûr, mais surtout un accident professionnel que Sujetio considérait comme une tache sur son honneur et sur celui de sa famille. Et comme je l'avais noté au passage, à cause de ce renvoi précipité, il n'avait pas eu le temps de solliciter, comme tout le monde le faisait, et c'était considéré comme très important, il n'avait pas eu le temps de solliciter l'attribution de titres honorifiques pour ses parents. Et c'est bien pour corriger ce grave manquement, et il le dit explicitement, qu'il s'était résigné, après un an passé chez lui, à reprendre la route de Pékin afin de solliciter une nouvelle affectation. Encore une fois, Xu Zhitu en parle souvent de ce problème, qui, à une certaine époque, semble l'avoir véritablement poursuivi ou obsédé. En 1618, par exemple, lorsque un ancien magistrat qu'il est allé consulter sur les problèmes de gouvernement lui fait remarquer qu'il n'y a rien à faire contre les gens obstinés et que donc Xu Zhitu regrette, en répondant à cela, de n'avoir pas entendu ses bonnes paroles lorsqu'il était à Shanghai, et que l'autre lui rétorque qu'il était jeune à cette époque et qu'il n'en aurait de toute façon tenu aucun compte, Xu Zhitu lui répond « Vous avez mis le doigt sur ma maladie cachée. » Et il emploie ce mot assez curieux de « yin qi ». Donc un... un mot qu'il emploie très souvent, en fait, dans toute cette partie de sa vie. Inti, où le mot ti peut signifier non seulement une maladie, mais une souffrance, ou aussi bien d'ailleurs un défaut. Donc, moi je traduis ma maladie ou souffrance cachée peut-être. Donc, vous avez mis le doigt là-dessus, et il passe le reste de la journée à ruminer cet échange. C'est d'ailleurs une période où il parle, donc là nous sommes dans sa première période à Pékin, une période où il parle régulièrement de cette souffrance, de cette souffrance un peu mystérieuse, toujours avec le mot ti, qui semble avoir été une forme de dépression, prenant parfois des formes aiguës. Mais, dit-il, il se force à avoir l'air gai et à avoir une attitude plaisante dans tous les contacts avec ses collègues et avec ses supérieurs. Il ne veut pas leur imposer sa déprime. Mais celle-ci, encore une fois, était profonde. Et à ce propos, il raconte, à la fin de 1618, une scène étonnante où, après une beuverie avec des collègues, qui a duré une bonne partie de la nuit, une nuit où il neigeait énormément sur Pékin, il refuse de monter dans sa chaise à porteur, et regagne son dépôt où il habitait, à pied, en pataugeant dans la neige, et en sanglotant violemment, en poussant de grands cris, dit-il. Et quand il se réveille à l'aube, il croit avoir rencontré son ancien moi. Son ancien moi. Et cette idée d'un ancien, d'une ancienne personnalité, d'un ancien moi, qu'on a oublié mais qui est toujours là, semble remonter à Zhuangzi. Et les connexions taoïstes dans la culture de Xu Zhitu sont importantes, je crois. En tout cas, sans aller jusqu'à parler d'une rencontre avec son doppelganger, Xu Zhitu dit à ce moment s'être senti proche de la maladie mentale, de la folie. Et de nouveau le mot qi, et cette fois-ci c'est xinji, ma souffrance psychologique. S'il ne revient pas sur le sujet dans les 6 mois qui suivent, le 7e mois lunaire de l'année 1619, soit la plus grande partie du mois d'août et le début de septembre, va être l'un des moments les plus durs dans sa vie. Son épouse et son père, qui, comme je l'avais mentionné, vivaient avec lui dans sa retraite du dépôt de charbon, du charbon de bois à Pékin. En fait, j'avais parlé par erreur de sa mère et de son père, mais il s'agit bien de sa femme, qu'il appelle d'ailleurs Tai Tai. Donc, son épouse et son père meurent l'un après l'autre à exactement 3 semaines de distance. Le passage est assez court et, comme je le comprends en tout cas, voilà ce que dit Xu Zhitu. Le 6e jour du 7e mois, à l'heure Xu, c'est-à-dire en début de soirée, ma femme meurt et mon père n'est toujours pas guéri. Toutes les nouvelles que j'avais entendues en un court espace de temps étaient de nature à ajouter encore au fardeau de ma maladie. Et là, il emploie vraiment le mot qi bing. Mais à cause de tout cela, c'est-à-dire la mort de sa femme, la maladie de son père, à cause de tout cela, j'étais obligé de ces nouvelles, ces informations, de les garder pour moi-même. Je ne pouvais pas en parler. En 3 jours, je n'ai pas pu lâcher un seul sanglot. Hélas, hélas, il dit aïdzaï, aïdzaï, ces expressions de ces hélas ou wourou, etc., qui remplissent littéralement les textes de beaucoup de lettrés, Xu Zhitu en est extrêmement économe et c'est en fait à ce moment-là seulement qu'il en use. Et le paragraphe suivant annonce la mort de son père, donc le 27 du même mois, et il évoque en quelques mots ces 2 ou 3 derniers jours, alors qu'il ne pouvait plus, que son père ne pouvait plus avaler, qu'il essayait de parler ou de faire des signes, mais qu'on ne comprenait rien, et que son fils lui criait de ne pas s'en faire, que ses enfants étaient maintenant des adultes qui comprenaient la justice et la raison, et que tout était en ordre dans la famille. Et c'est alors seulement que son père avait fait un signe de tête, mais on ne saurait jamais ce qu'il avait voulu dire. Et encore une fois, hélas, et ce genre d'exclamation, encore une fois, n'apparaît pour ainsi dire jamais dans le texte. C'est un paragraphe court, mais à mon avis assez fort. Et avec, enfin, quoi qu'il en soit, avec tout ça, enfin, avec, en racontant ces souffrances psychologiques, j'ai un peu perdu de vue la carrière de Sujetio. Je veux dire, ses doutes qu'il exprime occasionnellement et la façon dont les déceptions et les frustrations retentissent sur son psychisme. Sinon, qu'il insiste à plusieurs reprises, et il y en aura d'autres exemples plus tard, sur le fait qu'il ne veut pas que sa déprime ou sa tristesse apparaissent en public, plus spécialement dans son milieu professionnel, même si ses amis savent très bien à quoi s'en tenir. Mais nous la retrouvons, cette carrière, à présent, à son point le plus bas, c'est-à-dire au moment de sa radiation des cadres à la fin de 1625. Et là, de nouveau, la façon dont Sujetio analyse ses propres sentiments et ses réactions sur le moment est d'un réalisme psychologique que je trouve assez étonnant et dont je ne pense d'ailleurs pas qu'il existe beaucoup d'autres exemples dans la littérature chinoise, même à la fin des Ming. Cet épisode a évidemment été un tournant important dans la vie de Sujetio. Et là, on ne peut pas dire, comme au moment où il attendait sans l'attendre sa titularisation comme magistrat de Jiangxia, on ne peut pas dire qu'il jouait avec l'idée de prendre du champ, puisque, à sa grande surprise, il a été proprement mis à la porte de l'administration et qu'il en a visiblement été consterné. Mais d'une certaine manière, il jouait avec le feu, comme nous l'avons vu, et une fois le coup prêt tombé, il lui a bien fallu se faire à l'idée que, désormais, il serait un simple lettré dénué du moindre statut et qu'il allait lui falloir échanger ses atours de fonctionnaire contre la robe simple et le petit chapeau du lettré sans titre, comme il se promet de le faire solennellement dès son retour chez lui, et qu'il lui faudrait essayer de tirer le meilleur parti possible de cette situation nouvelle en menant la vie d'un tucheux, c'est-à-dire un lettré retiré, à laquelle, après tout, il disait souvent qu'il aspirait. En tout cas, c'est un épisode, je veux dire, cette révocation, que, de toute évidence, Sujetio a eu beaucoup de mal à vivre. Ce qu'il laisse clairement entendre dans toute cette affaire, c'est qu'il espérait qu'en adressant au trône un mémoire dont il savait pertinemment qu'il allait lui causer des ennuis, il serait débarrassé de cette nomination comme conseiller spécial de Gaudi, dont il ne voulait pas. Or, la réponse a été beaucoup plus brutale que ça, puisque, à peine 10 jours après avoir rédigé son placé, Sujetio est renvoyé de son poste, et seulement quelques jours avant, il avait eu pourtant une belle promotion, comme je l'ai dit, et ramené à la condition d'homme du commun. Et pour faire bonne mesure, les titres honorifiques qui avaient été décernés à ses parents étaient abolis. Et il est clair que tout ça a été un choc. Sujetio prend connaissance de l'édit qui le renvoyait de l'administration au cours d'un banquet chez un de ses collègues. Donc quelqu'un apporte le texte qui vient d'être promulgué, et voici ce que Sujetio écrit alors. Je ne suis pas toujours absolument sûr de ma traduction, mais enfin je cite quand même, j'essaie de citer. Je le lus, enfin ce texte, donc je le lus, et c'était comme si je ne me sentais pas concerné. Mais j'avais aussi la sensation que les paroles que je prononçais ne résonnaient plus dans mes propres oreilles. Je répétais « Allez, buvons !» Et nous continuâmes à jouer au dé et à boire copieusement jusqu'à la fin, enfin, vraiment à boire comme des trous, c'est chang-in, jusqu'à la fin de la réunion. J'avais comme l'impression que je jouais trop. Le lendemain, j'eus progressivement une sensation de débâcle, et c'est une traduction peut-être un peu forte, mais enfin pourquoi pas, pour le mot « bing pan », enfin l'expression, donc là, littéralement, là, la glace se défait, enfin oui, c'est comme on parle de débâcle glaciaire, donc tout se défait. Donc j'eus une sensation de débâcle, mais au moment de me mettre en route, je me procurais un volume de l'annuaire des fonctionnaires, et je le consultais, et soudain je m'aperçus que mon nom avait été retiré. Je ne pus m'empêcher d'avoir tout d'un coup des palpitations. Se trouver ainsi à la limite entre deux mondes, comment serait-ce facile à exprimer, et comment tromper les autres sur ses propres sentiments ? Donc, comme vous voyez, Sujetio décrit des sensations et le mot « tuer », qui signifie « sentir », revient 4 fois dans ces quelques lignes, de même qu'on a 2 fois le mot « se », c'était comme si, hein, et des fois « se tuer », c'était comme si je sentais que ces sensations, y compris d'ordre somatique, quand il est sous le choc, sa propre voix résonne bizarrement dans ses oreilles, quand il voit qu'il est rayé, qu'il a été rayé de l'annuaire des fonctionnaires, il a des palpitations soudaines, Et surtout, il y a cette notion d'être, pour le traduire peut-être un peu lourdement, en un lieu à l'interface. C'est-à-dire, il dit tiao tie chu. Tiao tie était en. Enfin, je dis interface, c'est une frontière hein, entre deux mondes. Donc, cette sensation d'être en un lieu à l'interface, et là, il devait évidemment parler de la frontière. En effet, incommensurable qui sépare la condition de lettré fonctionnaire et la condition d'homme du commun. Il a du mal à la passer, cette frontière, et c'est ce que continuent de montrer les quelques pages qui suivent. Et ça reviendra encore souvent dans les deux années suivantes. Il doit d'abord il évoque justement ses jours après sa révocation. Donc il doit d'abord se rendre au ministère des Finances, qui est également le ministère du sens, donc des passeports, si vous voulez, pour se faire remettre un certificat établissant son nouveau statut d'homme du peuple. Après quoi, il va se réfugier dans un temple hors les murs, qui va être sa résidence jusqu'à son départ. Il évoque aussi les commentaires que tiennent les autres sur son aventure. Certains disent qu'il recherchait la notoriété et qu'il l'a trouvée. D'autres affirment qu'il part, mais qu'il reviendra sûrement. D'autres disent qu'il s'est exprimé simplement trop tôt. D'autres encore qu'il a cherché un prétexte pour démissionner parce qu'en réalité, il avait peur qu'on ferme les passes. Il avait peur, Guanmen, qu'on ferme les passes. Et je ne peux pas comprendre ce mot Guanmen, qui signifie faire une porte tout simplement, autrement que comme une allusion, mais également les passes qui défendent la Chine, la Grande Muraille, comme une allusion à la politique de repli à l'intérieur des passes à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. D'autres, enfin, affirme qu'après avoir été longtemps obligé de rester soumis, littéralement courbé, il a voulu obtenir réparation. Littéralement, il a voulu se déployer. Et les deux mots qui s'opposent, là, c'est « tu », qui peut signifier se recroqueviller ou se courber, et « shen », qui est au contraire se déployer. Donc, il y a plus tenu, en quelque sorte. Xu Zhetuo ne veut rien contester de toutes ces choses que ses amis disent sur lui, et manifestement, il considère qu'il y a beaucoup de juste là-dedans. Il répète encore qu'il était prêt, je suis l'ordre du test, qu'il était prêt à être censuré, mais qu'il ne pensait pas que ce serait de façon aussi sévère, et il affirme, un peu curieusement, on peut parler d'une grande chance au milieu de la malchance. Donc une grande chance, c'est Qi Xing, et la malchance, c'est Bu Xing, tout simplement. Donc... Bu Xinzhong, Zhe Xing, yeah. Donc une grande chance au milieu d'une malchance. Et donc ça peut paraître un peu curieux, mais cette notion s'explique, je crois, par le fait qu'il dit aussi dans ce même passage que le plus pénible dans toute cette aventure aurait été que son initiative passe inaperçue, qu'elle tombe à plat, littéralement, et il le dit comme ça, que ça ne fasse pas mal et que ça ne gratte pas. C'est une façon de dire que ça gratte, justement, les gens qui voulaient gratter. Il reçoit aussi une lettre de Gaudi, donc celui qui devait être son patron, qui lui dit qu'il ne peut rien faire pour lui parce qu'il ne veut pas se faire mal voir en haut lieu, et qui essaie de le réconforter en lui disant qu'après tout, c'était le destin. Et Xu Zhetuo remarque qu'en effet, il était arrivé à Pékin et était allé provisoirement s'installer dans le même temple, c'est-à-dire le Bao Guoshe, qui est hors les murs, il y a exactement un an, jour pour jour. Et il ajoute, c'est vraiment le destin. Chen Shuye. Ce qui a aussi dû réconforter Xu Zhetuo dans cette passe difficile, c'est la sympathie et le souci que lui manifestent ses collègues, qui sont aussi ses amis et qu'on a vu apparaître au fil d'innombrables conversations pendant les mois précédents, et avec qui il aura vraiment beaucoup bu. Comme ils savent qu'il n'a pas le sou, il décide de faire payer par le bureau ses frais de route pour rentrer au Zhejiang. Mais il refuse parce que ce n'est vraiment pas dans les règles, dit-il. Et finalement, donc, il se met en route, une dizaine de jours après sa destitution, dans une chaise à porteur arrimée à deux mules, une devant, une derrière, dont il évoque les phobies et les caprices de façon assez drôle. Je me suis un peu attardé sur cet épisode, donc autour de sa destitution en 1625, parce qu'il me semble, encore une fois, concentrer en quelques pages ce qu'il y a de plus original dans l'autobiographie de Xu Zhetuo. Le réalisme psychologique et l'analyse de ses propres réactions, l'absence totale de pause, il aurait très bien pu se poser en victime d'une machination politique, en juste, en quelque sorte. Et aussi, le côté vivant est très vrai de ses annotations en temps réel sur ses derniers jours à Pékin. Le banquet au cours duquel il apprend son malheur, les démarches à faire, les conversations avec les amis, etc. Et je voulais essayer de vous donner une idée de la texture si particulière du Xue Pu, en analysant donc de façon un peu détaillée cette période de moins d'un mois entre la décision de Xu Zhetiao de tenter un grand coup avec son mémoire contre Ma Shelong et son départ sans gloire de la capitale, cette période de moins d'un mois qui est incontestablement l'une des plus intéressantes et des plus riches psychologiquement, notamment dans l'ensemble du Xue Pu. En tout cas, il est certain que cet accident de parcours, ou devrais-je plutôt dire ce qui devait après coup se révéler n'avoir été qu'un accident de parcours, alors que sur le moment c'était vécu comme un échec définitif, il est certain que cet incident était de nature à susciter chez Xu Zhetiao de nouvelles interrogations sur sa destinée, sur ce qui comptait vraiment pour lui et sur son propre caractère. J'ai rapidement évoqué la semaine dernière la conjoncture, les deux années qu'il passe chez lui au Zhejiang, avant qu'un nouveau retournement de la conjoncture politique ne mette un terme à cette retraite. Mais avant ce retournement, il était visiblement parti pour finir ses jours à Xuzhou dans la condition et avec l'état d'esprit d'un lettré retiré définitivement des affaires, affectant même de ne plus vouloir entendre parler de politique et être uniquement intéressé à ses études, à sa famille et à son jardin. Mais si l'on peut croire que, en effet, Xu Zhetiao a trouvé dans sa retraite forcée une certaine sérénité, en tout cas une certaine résignation, il aurait été surhumain de sa part de ne jamais s'aventurer à penser que les choses pouvaient encore changer. Après tout, on ne compte pas, tout particulièrement pendant l'histoire politiquement très chaotique des derniers règnes des Ming, on ne compte pas le nombre de ceux qui ont été renvoyés dans leur foyer dans les conditions les plus humiliantes pour être rappelés un peu plus tard, et parfois beaucoup plus tard, comme dans le cas des chefs du parti Donglin, parce que ce qu'on pourrait appeler l'alternance avait joué au sommet du pouvoir. J'ai fait allusion la semaine dernière à cette séance de divination à laquelle avait accepté de se prêter Xu Zhetiao dans son jardin un jour d'automne en 1626, au cours de laquelle le devin lui avait annoncé qu'il serait à tous les coups vengé de ses avanies dès l'année suivante. Et là, l'expression « c'est Xu au bas », qui peut signifier en fait aussi bien ce que j'ai dit, donc être à tous les coups, hein, Xu, c'est sûr qu'il va y avoir alors une rétribution ou une vengeance, quelque chose comme ça, mais pas, on peut aussi signifier, et signifie assez souvent en fait dans le texte, le rapport qui annonce une nomination, une promotion ou quelque chose comme ça. Donc ça signifie peut-être, à tous les coups, il va y avoir une annonce que vous êtes de nouveau réintégré, etc. Quoi qu'il en soit, Xu Zhetiao, nous l'avions vu, répond qu'il cultive son jardin et qu'il n'a pas d'autre ambition ou qu'il ne dit-il qu'il ne pense à rien d'autre. Le devin branle la tête en disant, j'avais dit Kiri, mais je m'étais trompé en fait, en disant, vous me racontez des histoires, vous me racontez des histoires. Il le dit deux fois, Rong Wo. Et il ajoute, c'est simplement que vous manquez un peu trop d'audace. Et Xu Zhetiao ajoute qu'il s'est ensuite, après le départ du devin, qu'il s'est ensuite interrogé sur ce propos et qu'il pense que c'était assez bien vu. En fait, dit-il, même en se forçant, il n'arrive pas à feindre. Entendons, les autres arrivent toujours à le percer à jour. Et c'est d'ailleurs là une chose que, encore une fois, il admet plus d'une fois dans son autobiographie. En tout cas, les choses changent notablement un an plus tard, lorsqu'on apprend, lorsqu'on apprend à l'automne 1627 la mort de l'empereur Tianxi et la chute de l'eunuque Wei Zhongxian, celui par qui Xu Zhetiao était tombé. Comme nous l'avions aussi vu, maintenant que l'on commence à rappeler à Pékin les hommes de valeur qui en avaient été chassés par Wei Zhongxian, tout le monde considère qu'il n'est plus possible de s'abstenir et que l'heure de Xu Zhetiao est venue. Et j'ai parlé donc la dernière fois de ses réticences et on ne peut pas dire que celles-ci viennent de sa part d'un profond désir de ne plus avoir affaire avec le service de l'État. En fait, il est très tenté. Et comme l'avait bien vu le devin, il y pense et on peut imaginer qu'après ce changement de régime de la fin 1627, il ne cesse d'y penser. mais il est prudent, ou plutôt il est sceptique. Il craint que rien ne puisse réellement changer au sommet, et d'abord au palais impérial, avec toutes ses femmes et toutes ses eunuques, au palais impérial d'où tout procède, et d'où étaient venus ses ennuis. Et puis, c'est aussi une affaire d'honneur. Il veut être solennellement restauré dans sa qualité de lettré fonctionnaire, et il ne peut l'être que par l'empereur, puisque c'était un empereur qui l'en avait dépouillé. Et c'est la raison pour laquelle, même informé de sa nouvelle nomination au Futian, qui finit par arriver, il refuse de bouger tant qu'elle n'aura pas été sanctionnée par un édit impérial en bonne et due forme reçu à Chuzhou. Une fois cela accompli, Xu Zhiqiu part pour son nouveau poste au Futian, et on peut bien dire que les trois dernières années de sa vie, ou deux et demi, puisque les derniers mois il était de nouveau rentré chez lui, que ces deux ou trois dernières années de sa vie, qu'il passera presque entièrement au Futian, ne lui laisseront guère le loisir de cultiver son jardin comme il envisageait de le faire jusqu'à la fin de ses jours, après avoir été chassé de l'administration. J'ai déjà évoqué cette période d'activité épuisante et forcenée qui n'a été interrompue que par sa maladie finale, épuisante et forcenée et en même temps satisfaisante, car, comme je l'ai dit, Xu Zhiqiu se laisse volontiers happer par l'action. Et il est même capable d'y trouver une certaine sérénité. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme à un moment à un de ses subordonnés en disant « Je suis tout à fait heureux de mon sort » ou « Chengshi Anfenming ». Donc je suis bien avec mon sort. C'est encore une expression, je crois, qui, si je me souviens bien, qui sort du Zhuangzi ou d'une source comme ça. Je suis heureux avec mon sort, mais évidemment, ajoute-t-il, simplement dans ces opérations, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc je suis complètement épuisé, mais je suis heureux. Pourtant, même au milieu de tous ces déplacements, de toutes ces inspections et de toutes ces urgences auxquelles il faut faire face, Xu Zhiqiu réussit à se ménager des moments de solitude, ou peut-être, on peut même dire, de contemplation. Il réussit à s'occuper de lui, en quelque sorte. Et j'ai rapidement, d'ailleurs, évoqué la dernière fois son goût pour les excursions en solitaire. Enfin, en solitaire, cela n'excluait pas les porteurs et les gens de service. Sa recherche des points de vue d'où l'on embrasse un vaste panorama, son aptitude à se perdre dans la contemplation de la nature, etc., etc. Et on en trouve d'innombrables exemples dans le Suépou, y compris donc pendant ces années au Futian. La tentation de la solitude est en fait quelque chose de très profond chez lui, et je crois même qu'on peut dire que c'est réellement constitutif de sa personnalité. Et c'est quelque chose qui revient là aussi sans cesse dans l'autobiographie. Xu Zhiqiu au passé, je l'avais mentionné, je crois, pour s'être réfugié dans les montagnes au moment de ses études, donc avant de passer des examens, c'est ce qu'affirme son biographe, et lui-même, en fait, fait allusion au moins une fois à ses, je ne sais plus s'il donne un chiffre comme son biographe, mais enfin, ses nombreuses années de retraite dans les montagnes avant de devenir un lettré patenté et diplômé et de se lancer dans une carrière publique. Quel a été exactement son degré de solitude pendant une aussi longue période? C'est impossible de le dire. Mais c'est un fait que, dès que les circonstances l'y contraignent, il retourne avec une évidente satisfaction à une vie d'ermite, ce qui ne veut d'ailleurs pas nécessairement dire une vie solitaire. En 1612, par exemple, après avoir été démis de ses fonctions à Shanghai, il rentre chez lui, règle quelques affaires des affaires de famille, et se retire aussitôt dans les montagnes pour, dit-il, y mener à nouveau sa vie d'étudiant. Donc, une vie de Xiuzai, c'est-à-dire de l'étudiant qu'il était avant de passer le doctorat. C'est une sorte de retour à une vie libre d'études avant de commencer une véritable carrière. Xu Zhiqiu n'est pas un homme de la ville. Pendant ses fonctions à Fuzhou, par exemple, il se plaint à plusieurs reprises du chahut qu'il y a dans la rue où se trouvent ses bureaux. Il n'aime pas les manifestations bruyantes, par exemple les cortèges funéraires et choses comme ça, et il déteste le théâtre. Et avant cela, il avait expliqué à un ami qui se plaignait lui aussi de résider dans un endroit trop bruyant et plein d'agitation, il lui explique que c'est beaucoup mieux d'aller se réfugier dans un endroit tranquille dans la nature. Et il emploie le mot shanshui, donc montagne et eau comme les peintures, tingchu, et je note ce caractère parce qu'il va revenir. Donc, un endroit tranquille. Attendez, excusez-moi. Voilà, Ting Chu. Au milieu des montagnes. et des rivières. C'est beaucoup mieux d'aller dans un endroit tranquille dans la nature parce que, je cite, « quand on passe ses journées dans les montagnes à écouter le bruit des torrents, les pensées mondaines sont forcément peu nombreuses. » Et là, il emploie un mot qui, pour le coup, est un mot tout à fait bouddhiste pour les pensées, ce que j'ai traduit des pensées mondaines, c'est « chenyen », donc les pensées de la poussière, littéralement. J'ai bien sûr fait allusion au jardin que Sujetio s'était fait aménager loin de la ville pendant sa retraite forcée, après son limogeage, ce jardin où il allait constamment se réfugier pour vivre au milieu de la nature, pour étudier, méditer et ne voir que les gens qu'il avait envie de faire venir. Et enfin, le refuge qu'il s'était aménagé dans le parc du dépôt de charbon de bois du ministère des Travaux publics à Pékin devait lui aussi, dit-il, lui permettre de fermer sa porte et faire du Tingzhuo. Ce mot Tingzhuo, qui signifie littéralement rester assis en silence, assis, c'est-à-dire en assis par terre, bien sûr, c'est le même ting. Hein. Donc ting et zuo, être assis. Et le terme technique, en fait, pour, comme vous le savez, la méditation. Et ce mot revient assez souvent dans le texte. Mais ce n'est pas, dans le cas présent, de contemplation bouddhique, de rechercher à faire le vide. Qu'il s'agit. C'est plutôt du Tingzhuo néo-confucéen qui avait été mis à la mode dans les milieux lettrés à l'époque des Song, sur lequel M. Gernet avait écrit un article, si je me souviens bien, qui permet de s'examiner soi-même, de faire le bilan en quelque sorte. Quand il est à Pékin, en attente d'un nouveau poste après sa mésaventure de Shanghai à la fin de 1612, chaque fois qu'il a un moment à lui, Sujetio s'enferme et il dit réfléchit au passé, à tout ce qu'il a fait de stupide et de regrettable, à tout ce qui méritait la censure et la dégradation, et à tous les risques que recèle l'avenir. Et il ajoute que s'il n'était pas réveillé par les appels et les coups de tambour à l'aube, il aurait quasiment pu passer sa vie enfoui de la sorte dans ses pensées et dans sa méditation. Et quand il est de nouveau à la capitale pour son audience triennale en 1615, c'est la même chose. Il fait du Tingzhuo et réfléchit à toutes les difficultés que pose l'administration de Tianxia, à la chance qu'il a eue de ne pas rencontrer de gros problèmes, et il se donne tout un programme à réaliser quand il sera de retour dans son poste. Voilà donc pour la propension de Sujetio à s'isoler et à réfléchir sur lui-même. Mais il me reste à dire un mot de ce qu'il a consigné de ses réflexions par écrit, autrement dit, de ce qu'on retrouve de ses méditations dans son autobiographie. J'avais signalé dès le début que le Suépu est un document exceptionnel par la liberté avec laquelle son auteur parle de lui-même. Et c'est un fait que d'autres personnages se sont étendus avec une évidente sincérité, et parfois avec énormément de détails, sur leurs tribulations et sur leurs réflexions dans leur journal ou dans leur correspondance. Mais je crois qu'il en est peu, en tout cas je n'en ai pas rencontré pour le moment, je crois qu'il en est peu qui soient allés aussi loin dans leurs écrits que Sujetio en matière d'introspection et, si j'ose dire, d'auto-analyse. Et cela pour tout. Les grandes questions comme les incidents de la vie quotidienne. Et de ce fait, le personnage qui ressort du Suépu acquiert, dirais-je, une épaisseur et surtout une complexité qu'on ne trouve pour ainsi dire jamais dans les écrits à la première personne produits par les lettrés chinois, y compris ceux de cette période tellement exceptionnelle qu'est la transition entre les Ming et les Qing. J'ai déjà beaucoup parlé de Sujetio et je pense qu'à ce point, vous avez pu vous faire une assez bonne idée de lui en tant que personne, avec ses incertitudes et ses contradictions. Ce sur quoi je voudrais rapidement insister ici, c'est sur ce qu'il nous laisse voir de ses faiblesses et aussi de certains aspects de sa vie intérieure. Nous avons vu tout à l'heure la façon très directe dont il évoque son état dépressif à une certaine époque de sa vie, ou encore ses réactions quasiment physiques à certains événements qui le touchent de plein fouet. Il parle aussi de ses maladies assez fréquemment et de façon plutôt réaliste. Dans certaines périodes d'activité intense, il évoque avec insistance l'épuisement physique qu'il ressent. Et s'il dit qu'il continue quand même, c'est moins par bravoure pour se faire admirer que par une sorte de sens du devoir qu'il admire justement chez certains dignitaires dont il parle et qui insistent pour remplir scrupuleusement leurs obligations, y compris rituelles, quand bien même il leur serait facile, ils vont pas bien du tout, il leur serait facile de demander un congé pour maladie. Il parle aussi énormément de ses rêves, mais cela c'est plus banal à cette époque, ses rêves qu'il essaie d'analyser, ou dont il dit qu'il ne comprend pas bien ce qu'ils veulent dire, ou dont il dit simplement que c'était très intéressant, mais qu'il a tout oublié. Une autre chose qu'on trouve assez souvent dans Le Sieux Époux, c'est l'expression d'un sentiment d'impuissance. On ne peut pas faire ce qu'on sait qu'on devrait faire, on ne peut pas dire ce qu'on a sur le cœur. Il parle à un moment de la difficulté qu'il a à prendre des décisions par lui-même. Il lui arrive aussi, et très souvent, de mentionner ses regrets sur ce qu'il a dit ou sur son attitude, et de le mentionner tout de suite après l'avoir dit ou avoir vu cette attitude. Ou alors il regrette de ne pas avoir parlé suivant sa conscience ou d'avoir été impulsif ou même désagréable. Pendant sa tournée d'inspection au nord de la Grande Muraille, par exemple, il a un jour une attrapade avec un officier et tout de suite après, il note qu'il est devenu irritable et il parle de ces transformations, je cite, de ces transformations qui se sont opérées subrepticement en moi au cours du temps. Le vieillissement, donc, des transformations qu'il déplore et c'est d'ailleurs pour cela, dit-il, qu'il l'a noté. Et un jour, qu'il n'est pas content de lui-même après un petit problème de politesse, il ne s'est pas entendu avec quelqu'un, il se dit soudain que maintenant qu'il a les cheveux blancs, se faire du souci pour ces petites choses, ce n'est pas raisonnable. Et ailleurs encore, il s'exclame « à mon âge, je n'ai pas encore compris cela ». Il y a aussi d'assez longs passages où il analyse sa propre personnalité, où il essaie de la définir avec ses faiblesses et ses particularités, ses côtés impulsifs, son incapacité à se plier à certaines conventions, même s'il ne s'en fait pas une gloire, car, et je crois que c'est quand même important de le souligner, car Sujet Thiot est on ne peut plus éloigné de ce que j'appellerais les conventions de l'anticonformisme. Et enfin, il faudrait parler de son attitude en matière de religion, des questions qu'il se pose ou dont il discute avec ses amis ou avec son fils, dont il semble, donc celui qu'il avait surnommé le moine occidental, le Sisseng, dont il semble avoir suivi l'éducation de façon extrêmement attentive et extrêmement affectueuse. Mais là, parlant de religion, ça devient très compliqué. Et en même temps, assez simple, en ce sens que, comme chez beaucoup de ses contemporains, l'attitude de Sujet Thiot semble résolument syncrétique. Il s'intéresse aussi bien au bouddhisme qu'au taoïsme, encore qu'avec le taoïsme, il me semble malgré tout avoir une empathie particulière. Et il participe occasionnellement à des rituels de l'une ou de l'autre religion. Mais il refuse de dire s'il croit au Bouddha, malgré l'insistance d'un de ses plus proches amis, qui est un fervent bouddhiste, et on rencontre par ailleurs d'assez nombreuses discussions sur le bouddhisme et sur le confucianisme. Et il est clair, en fin de compte, je crois que c'est la conclusion finale sur ce point, il est clair que pour lui, les sages confucéens, dont il discute très assidûment avec son fils, restent la base de tout, et que c'est en étudiant leur enseignement qu'on peut espérer parvenir à ce qui est l'ultime impératif, à savoir être un homme, c'est-à-dire tsuo jeune. Littéralement faire l'homme. Et ça revient très très souvent, c'est-à-dire se comporter de façon appropriée dans le monde et préserver une intégrité parfaite. Donc, encore une fois, ce mélange de nombreux niveaux qui font aussi, par exemple, que bien qu'il n'ait pas l'air d'être très proche du bouddhisme en tant que religion au sens sérieux du terme, par exemple, il insiste énormément pour sauver les vies, function, donc éviter aux animaux d'être tués. Et en particulier, une des méthodes de function favorites chez beaucoup de gens, c'était de racheter les poissons aux poissonniers et de les remettre dans l'eau. Et justement, il explique qu'il a, sur son domaine, qui s'est au Xijiang, qui s'est construit, enfin qui s'est aménagé pendant sa retraite en 1626-27, il explique comment il y avait une rivière qu'il a traversée, qu'il a interdit aux pêcheurs d'y poser leurs filets, et que les pêcheurs n'étaient pas du tout contents. Donc ce genre de détails montre en effet une attitude religieuse au sens le plus vague du terme, mais pas au point que les enseignements fondamentaux des sages confucéens passent au second plan. Finalement, je me suis laissé aller à parler du Sieux Époux nettement plus longtemps que je l'avais prévu, et j'aurais pu y passer encore plus de temps, parce que il me semble que ce texte est un exemple idéal, peut-être le meilleur qu'on puisse imaginer, de ces nouvelles autobiographies apparues à la fin des Ming, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler assez longuement, mais jusqu'à présent sans m'attarder de façon réellement approfondie sur un texte particulier. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter aux quelques éléments que je viens d'évoquer sur la personnalité de Xu Zhetiao et surtout sur la façon dont il parle de lui-même. On pourrait en fait y passer énormément de temps à condition d'entrer dans le texte plus à fond que je n'ai pu le faire. Car ce texte est non seulement riche, il est très long. Il est même foisonnant dans ses chapitres les plus substantiels. Et non seulement il est très long, mais il est loin d'être facile. Je l'ai même trouvé, je dois l'avouer, très difficile. C'est d'abord une question de contenu. Xu Zhetiao aborde au cours de ses innombrables et parfois très longues réflexions une quantité de sujets philosophiques, religieux, d'érudition confucienne, etc., dont je soupçonne que même quelqu'un de plus familier que moi avec ces domaines aurait parfois du mal à saisir tous les tenants et les aboutissants. D'autant que Xu Zhetiao n'est ni un érudit, ni un philosophe, ni un théologien, simplement, il aborde librement tous ces sujets. Il dit, pourrait-on presque penser, il dit ce qui lui passe par la tête, parsème ses propos d'allusion et de formules, etc., etc. Et il en va d'ailleurs de même lorsqu'il parle de questions de prime abord plus abordables et moins subtiles, concernant par exemple la vie administrative ou les affaires militaires, dans des passages où l'historien habitué à des textes plus formels ne retrouve pas toujours ses petits. L'une des raisons pour lesquelles c'est parfois assez difficile à suivre dans le détail, je crois, c'est que Xu Zhetiao se parle d'abord à lui-même. Et après tout, il ne faut pas oublier que la substance du Xuépu, c'est d'abord un journal intime. Ce n'est pas un texte tourné vers l'extérieur. Et même s'il pense à un lectorat, à ses fils par exemple, voire par-delà ses fils, ses pères, ses collègues, ses amis, il s'agit de gens avec qui il partage la même culture et les mêmes références, qui comprennent à demi-mot ce qu'il dit, qui savent à quoi il fait allusion et qui n'attendent pas d'exposés circonstanciés. Et aussi, ce sont des gens qui parlent ou lisent la même langue, ou devrais-je dire qui lisent et parlent, car un des traits caractéristiques du texte, qui se rencontre d'ailleurs dans d'autres textes des Ming, y compris dans les déclarations des empereurs d'ailleurs, un des traits caractéristiques du texte, c'est l'abondance des tournures ou même des passages entiers en langue parlée, ou semi-parlée, en baihua donc, et ce n'est pas seulement le cas dans les conversations rapportées dans le texte, c'est le cas même pour parler de choses dans l'abstrait. Et ces passages en baihua, qui contiennent beaucoup de tournures familières, ne sont pas nécessairement les plus faciles à comprendre par rapport aux passages en langue écrite, lesquels forment malgré tout le fond du texte. Ils ne sont pas faciles à comprendre à cause justement de leur familiarité. C'est comme on parlait à l'époque et comme on ne parle plus nécessairement aujourd'hui. Et à cela s'ajoute encore un net goût pour l'aphorisme et la formule, en particulier pour renverser les formules, pour voir ce que ça donne, voire pour le paradoxe et le jeu de mots, autant de choses qui ne simplifient jamais la lecture. Je disais qu'il y aurait beaucoup à ajouter sur la personnalité de Xu Zhetiao, sur sa philosophie personnelle, sur son attitude face aux gens et aux choses dont il parle avec une telle liberté. Et en même temps, je crois avoir mis en évidence, dans tout ce que j'ai dit du Xuépu pendant ces 3 semaines, l'intérêt de ce document pour l'histoire. Xu Zhetiao nous livre, au cours de son autobiographie, des aperçus d'une rare immédiateté sur le monde de l'administration et des fonctionnaires pendant la crise dynastique de la fin des Ming. Et ce qui est particulièrement précieux, c'est qu'il nous les livre, ces aperçus, depuis les terrains très variés qu'il a connus pendant sa carrière. D'abord, l'administration locale, et dans 2 contextes assez différents. Ensuite, l'univers des bureaucrates de la capitale, entre la vie quotidienne de leurs bureaux, les audiences de la cour, les échos pas toujours feutrés des grandes batailles politiques au sommet, leur vie sociale et bien sûr leurs distractions. Et enfin, il le montre à travers le monde dangereux de la côte du Futian, où les militaires et les bandits ne se distinguent pas toujours très bien. Et au-delà de ses préoccupations professionnelles, il y a une quantité d'observations précises et de remarques précieuses sur les conditions sociales et économiques qui régnaient dans les régions où Xu Zhetiao est passé, auxquelles il s'intéressait de très près, je dirais même de façon très empathique, comme l'atteste sa propension, et dont il y a vraiment beaucoup d'exemples dans le texte, sa propension à discuter le coup avec les petites gens, les soldats, le petit personnel de l'administration postale, les vieux paysans ou les pêcheurs près de chez lui, d'autres encore, dont il rapporte très souvent les propos. Xu Zhetiao est mort en 1631. À ce moment, la situation de la dynastie des Ming était extrêmement difficile, mais on peut douter qu'il y ait eu alors beaucoup de gens pour considérer qu'elle était désespérée. La pression des Mandchous était très forte, et j'ai mentionné le fait qu'au tournant de 1629 et 1630, Ils avaient réussi à franchir la Grande Muraille et à se rapprocher dangereusement de Pékin, si bien que ça avait été la mobilisation générale pendant quelque temps. Mais c'est malgré tout dans les années suivantes que l'édification d'un véritable État mandchou, avec l'aide de conseillers chinois ou de généraux ralliés, va devenir un phénomène réellement menaçant. Quant à l'autre danger mortel pour les Ming, que j'ai aussi eu l'occasion de mentionner, je veux parler des rebelles à la tête d'armées de déclassés et de paysans sans terre qui commencent à s'organiser dans le Nord-Ouest dès le début du règne de Chongzhen, donc dès 1628. C'est également dans le courant de la décennie 1630 que ce danger va réellement prendre forme, lorsque ces armées vont quitter leur foyer originel et sillonner une bonne partie de l'Empire, jusqu'au Hunan dans le sud et jusqu'au Sichuan dans l'Ouest, en causant de terribles ravages. Or, Sujet Chiu, dont l'autobiographie s'arrête au milieu de 1631, n'y fait aucune allusion. En revanche, je signale au passage, Xiong Wensan, qui avait été son patron au Fujian, va, lui, y perdre la vie. En effet, fort de ses succès contre la piraterie au Fujian, et plus tard au Guangdong, Xiong Wensan est nommé en 1637 généralissime contre les rebelles dans l'ensemble des provinces de Chine centrale et du Nord-Ouest. Et là, il commence par réussir en pratiquant la politique de ralliement des rebelles qui lui avait si bien réussi avec Zheng Zhelong au Fujian, comme nous l'avions vu, mais au bout d'un certain temps, les chefs rebelles les plus dangereux rompent de nouveau avec le gouvernement, et là, c'est le désastre qui vaudra à Xiong Wensan d'être destitué et exécuté en 1640. Et on a souvent affirmé que la stratégie mal conçue et mal exécutée de Xiong Wensan contre les rébellions paysannes, comme on les appelle, avait été une des causes majeures de la chute des Ming 4 ans plus tard. Quoi qu'il en soit, les 15 dernières années des Ming sont aussi une époque où vont se distinguer un certain nombre de lettrés réformistes, adeptes de ce qu'on appelait les disciplines concrètes, et en particulier des arts militaires. Il y a une floraison de traités d'arts militaires à cette époque, sans exemple dans le reste de l'histoire, intéressés par les nouvelles technologies que les Européens commençaient à introduire en Extrême-Orient, et prêts finalement à faire feu de tout bois pour sauver la dynastie. En bref, des gens dont il me semble qu'ils sont tout à fait dans la ligne justement de Sujet Chiu. Leurs efforts s'avéreront en fin de compte futiles, bien sûr, mais ce n'est pas ici le problème. S'il m'a paru valoir la peine de passer un certain temps avec Sujet Chiu, c'est entre beaucoup d'autres choses parce que dans ses fonctions, surtout à la fin de sa vie d'ailleurs, il anticipe d'une certaine manière sur un type de bureaucrate activiste inventif, obsédé par la défense nationale, qui est tout à fait caractéristique de l'extrême fin des Ming et qui ensuite disparaîtra complètement après la conquête. Cela dit, ce n'est pas de cela que je m'apprête à parler et comme je l'ai annoncé, j'ai l'intention, à partir de la prochaine fois, d'aborder deux aspects de la transition dynastique. Donc, comme je l'avais dit, d'une part, les calamités naturelles des années 1640 et d'autre part, les réactions populaires à l'invasion mandchoue au Jiangnan, toujours à travers les écrits et les témoignages à la première personne. Mais cette fois-ci, en me détachant du personnage du lettré, dont Sujet Chiu reste malgré tous ses côtés originaux, un exemple éminent. Et voilà donc ce que j'aborderai la semaine prochaine. Et je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.